Boomerang Nicolas avec la réalisatrice Anne Fontaine, un entretien enregistré la semaine dernière avant la mort d'Agnès Varda, à qui l'on rend hommage et à qui l'on dit au revoir ce matin. C'est parti. Je retiens l'émerveillement pour un visage, un objet, un paysage, une nouveauté. Je retiens ses yeux pétillants chaque fois qu'on lui posait une question, son sourire qui se dessinait pendant qu'elle préparait sa réponse et l'inflexion de sa voix, surtout dans ses phrases simples qui n'étaient pourtant jamais définitives, qui restaient en l'air, qui semblaient suspendues, interrogatives, ouvertes à un dialogue sans cesse renouvelé. Il y avait de l'esprit, il y avait de la drague, il y avait du cabotinage aussi, il y avait une inénarrable drôlerie dans sa façon de tirer son épingle du jeu et de faire en sorte que jamais on ne s'ennuie. Et puis la mignonnerie de ce petit bout de femme qui en jouait volontiers de sa clownerie, levant la tête et la penchant sur le côté, jouant de son charme et de son autorité pour tout casser avec une pointe d'autodérision quand elle se faisait passer pour une patate, quand on la décrivait comme un champignon et qu'elle répondait qu'en réalité elle n'était qu'un gland. Je retiens des objets, surtout les objets d'Agnès Varda, ceux-là même qu'elle glanait depuis des années avec sa caméra, son appareil photo, ses mains tout simplement, et qui donnait vie à son émerveillement. Une pellicule, une tongue, une bobine, un miroir, un brin d'herbe, une carte postale, un poème, un objet, Varda.
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invitée d'aujourd'hui a-t-elle gardé intacte sa capacité à s'émerveiller? Elle est cinéaste, on lui doit Nettoyage à sec, Nathalie, Augustin Roi du Kung Fu, Coco avant Chanel, ou encore La Fille de Monaco. Son nouveau film Blanche comme neige, variation malicieuse sur le conte des frères Grimm, sort la semaine prochaine. Bonjour Anne Fontaine.
Bonjour.
Merci beaucoup.
Ben, je suis contente d'être avec vous.
Mais nous aussi, cet émerveillement, il est constant chez vous?
Il est constant, ça dépend. Tout ne m'émerveille pas.
C'est un art de savoir s'émerveiller.
Mais il faut le préserver absolument. C'est vraiment quelque chose d'indispensable de se sentir porté et puis surtout révélé par des choses mystérieuses.
Et par des objets. L'émerveillement qui naît d'objets tout simplement. Quelle importance est-ce que vous leur donnez aux objets?
Les objets, ils sont vivants. Ça a une vie, ça a une histoire. Ça peut être merveilleux de regarder un objet et de rêvasser, de se laisser porter par l'objet.
Avec quelles histoires, quels contes, quelles légendes est-ce que vous avez grandi, vous, enfant?
Avec boucles d'or, parce que je voulais avoir des boucles et être blonde, alors que j'étais brune comme un pruneau. Et puis Blanche-Neige, je pense aussi.
Blanche-Neige, justement.
Qui a un rapport ludique avec la nouvelle Blanche-Neige, Blanche comme neige, que j'ai fait au cinéma.
Mais pour vous, que raconte ce conte? Quel en est le sens?
Il y a quelque chose, comme dans tous les contes, d'universel, de cruel, et en même temps empathique. Mais cette jeune Blanche-Neige, celle du conte, était quand même comme une femme au service des hommes. Ce que j'ai quand même un peu modifié dans mon film.
Pour dire le moins.
Oui, puisque c'est une femme qui va rencontrer 7 hommes et qui va s'émanciper avec 7 personnages masculins différents. Donc c'est pas tout à fait l'histoire du prince charmant, c'est une autre variation.
C'est donc une histoire quand même d'initiation, et quelque part c'est ce que vous en retenez dans ce film, Blanche comme neige. Pour autant, dites-moi si je me trompe, votre intention de départ, c'était pas du tout de faire une variation sur Blanche-Neige. Je crois que tout est parti d'un personnage qui vous trottait dans la tête.
Oui, d'une femme qui aime les hommes, d'une femme qui va au-devant de sa sensualité, qui ne s'interdit rien, qui est portée par quelque chose de vital, un caractère solaire, et je trouvais que ça manquait en fait dans le cinéma, parce qu'on voit des hommes qui séduisent pas mal de femmes, mais on voit rarement finalement une jeune femme qui va au devant de manière totalement libre, et que ça donne ce sentiment de liberté, de désir. Donc voilà, je voulais parler de cette héroïne féminine.
Qui était-elle, cette femme, cette héroïne féminine?
Pas qui était-elle, c'est-à-dire
elle existait.
Un peu en moi, sûrement, parce que comme
c'est ce que je voulais vous faire dire.
Ah ben oui, j'imagine bien.
Comme je suis, vous imaginez.
Oui, je me suis inspirée de ce que je ressentais, de personnes aussi que je connais. Je fais toujours un mélange en fait, mais je me sens proche du personnage féminin, parce que je pense qu'elle révèle aussi la fragilité chez les hommes, et que les hommes qu'elle rencontre sont tous spéciaux, sont tous sur la fragilité, sur la complexité en fait, et ne sont pas des hommes solides forcément, et avec tous les attributs qu'on peut imaginer quand on tombe amoureux.
Ça vous amuse de tout déconstruire?
ça m'amuse de derrière la légèreté, derrière l'amusement, quelque chose de sensuel, d'avoir la complexité, l'ambiguïté qui fait partie de la condition humaine.
Alors c'est intéressant, Anne Fontaine, parce que dans le film, vous ne cessez de filmer ce personnage en train de courir, comme si elle continuait de vous trotter dans la tête, en fait.
Alors là, vous m'apprenez quelque chose, car je ne me suis pas rendu compte. Vous
savez, elle courait tout le temps ?
On fait des films aussi pour une part aveugle de soi-même. En fait, c'est comme l'inconscient qui vous fait choisir un sujet. Et quand vous me dites ça, je trouve ça super vrai. Mais j'avais pas vu qu'elle courait autant. Elle court pour échapper à la méchante belle-mère au départ, ça c'est sûr. Et puis elle court pour respirer dans le Vercors, dans des paysages magnifiques. Elle court pour respirer. Et alors le rapport avec moi, si vous voulez, moi je cours pas, je danse. Mais c'est un peu quelque chose aussi de avec le mouvement, avec la. Je viens de la danse en fait. J'ai été danseuse.
On en reparlera si ça se trouve.
Si au ça cours se de trouve, cette émission. Attention,
attention. Vous me tendez des perches là. Mais alors Anne Fontaine, à quel moment est intervenu le conte de Blanche-Neige, ce jeu que vous mettez en place à partir du conte, parce que vous auriez presque pu vous en passer, tout compte fait.
J'ai trouvé qu'il y avait une interaction stimulante de l'histoire de deux femmes, puisque finalement il y a une femme qui va perdre son fiancé, son amant, qui est joué par Isabelle Huppert, et qui voit sa jeunesse s'évaporer dans l'incarnation de cette jeune sublime Lou Delage. Et donc, c'est vrai que j'ai ressenti une liberté supplémentaire et aussi une complexité plus grande de se faire intercaler le conte qui est là en filigrane et qui est là de manière... On peut le lâcher, on peut rentrer dedans. Je veux dire, c'est pas une retranscription littérale, évidemment. C'est vraiment, il y a un côté hitchcockien aussi, parce que évidemment, le personnage d'Isabelle Huppert va faire tout pour essayer de l'évincer, de l'éliminer. Alors, on se demande comment elle va faire, est-ce qu'elle va, quels moyens elle va utiliser. Donc, il y a aussi cette cocasserie entre ces deux femmes, même s'il y a une tension sourde, évidemment.
Et puis c'est un conte qui fait partie de notre imaginaire collectif, vous le disiez, et il fournit un certain nombre de repères d'identification, qui sont d'ailleurs remis en question. Aujourd'hui, on énonce notamment le sexisme, la misogynie de certains contes. Vous en pensez quoi ? Vous, à propos de Blanche-Neige, par exemple, dont on fustige la domesticité, la soumission, le baiser de l'homme, plus ou moins consentant.
C'est vrai que la véritable Blanche-Neige de départ est une boniche. Enfin, elle est en train de balayer pour que les nains aient un intérieur parfait.
C'est un modèle domestique.
C'est incroyable tellement c'est vieillot. Et pourtant, ça reste ancré dans les lectures des jeunes petites filles et tout.
Ça fait du mal, ça.
Donc, ça fait du mal. Donc, c'est pour ça que je voulais une fille effrontée, libre, qui est le contraire, finalement.
Mais dites-moi, il y a quelque chose de féministe et de politique dans votre démarche.
Eh bien, vous avez deviné qu'il y avait quelque chose de féministe, mais c'est sans dictat, c'est-à-dire, c'est pas didactique. Je pense que le spectateur doit s'amuser avec ce personnage, s'amuser au sens profond, parce que l'amusement, c'est profond, c'est pas quelque chose qui est superficiel. Et il y a quelque chose d'une libération. Il y a des femmes qui voient le film, par exemple, et qui me disent... Je me sens libérée, quoi. J'ai éprouvé une
permissivité.
Vous voyez, j'ai pas pu le dire.
Peut-être que c'est difficile alors.
Et oui, et donc il y a un affranchissement, il y a vraiment l'idée de cette aventure humaine de rencontrer des hommes et d'établir avec chacun d'entre eux un type de relation et d'amour au sens large du terme, différent.
Vous avez grandi, Anne Fontaine, dans les années 60 en tant que fille. Avez-vous eu le sentiment que l'attente du prince charmant est quelque part conditionnée une partie de votre éducation, à vous ?
C'est très difficile d'échapper à ce concept du prince charmant qu'il faut très vite, évidemment, franchir. Mais j'ai sûrement été, comme beaucoup de petites filles, avec l'idée d'un idéal masculin. Bon, je dois vous dire la vérité, c'est que je me suis toujours intéressée à des hommes un peu étranges, singuliers, différents. Donc très vite, le concept de prince charmant s'est effrité tout seul, parce que personne ne correspondait à ce prince charmant.
Vous êtes dans La Belle et la Bête, Anne. Moi, c'est un de mes préférés, personnellement. Quel genre d'éducation est-ce que vous avez reçu, vous ?
J'ai une éducation... j'ai vécu à Lisbonne. Mes parents ont des professions très singulières, puisque mon père est organiste et ma mère fait des vitraux. Donc j'ai vécu dans des églises, un petit peu, d'une certaine façon, si on peut dire, métaphoriquement. J'ai été très, très jeune dans la danse. Et donc dans la danse, c'est quelque chose qui soulève du sol, où on flotte, où on n'est pas sur terre exactement, et ça m'a poursuivi.
Et dans cette éducation, quelle place est-ce qu'on accordait aux questions de la sexualité, du désir, de la sensualité, qui sont partout dans votre cinéma ?
Pas beaucoup. J'avais plutôt un environnement assez austère. La danse classique, c'est dur. La sensualité est venue vraiment avec l'expérience du cinéma, je dirais.
Le cinéma, vous l'associez au désir ?
Ah oui. Bah oui, sinon, à quoi bon ?
Est-ce que vous savez seulement pourquoi vous faites ça ?
Il faut une raison. Avant, je ne savais pas ce que c'était que le désir. Maintenant, je sais.
Alors, tant mieux pour vous. Vous n'avez donc pas besoin de mes encouragements pour continuer à vous amuser.
Amuser ? Ah, mais c'est pas de l'amusement. C'est de la vie. Est-ce que c'est mal ? Est-ce que ça fait de moi une créature du diable ?
Le diable emprunte des chemins beaucoup plus tordus que les vôtres. Il avance toujours masqué. Et vous, ma chère fille, vous êtes transparente, comme l'eau pure du glacier.
Moi, transparente et pure.
Mais pourquoi pas ? Vous vous sentez vivre ? Eh bien, vivez. Vivez à fond. Et comme disait saint Augustin, aime et fais ce que tu veux.
Les prêtres auxquels vous aviez affaire, Anne Fontaine, étaient-ils toujours aussi compréhensifs que celui qu'on vient d'entendre ?
Est-ce qu'ils disent tous « aime et fais ce que tu veux » ?
C'est une vraie question.
Mais c'est beau, ce prêtre canadien qui encourage finalement cette jeune femme à aller faire ses désirs. Et il n'y a pas de jugement moral, il n'est pas choqué. Alors, est-ce que ça a toujours été le cas ? Le Portugal est un pays très catholique et qui n'est pas connu pour son côté rock'n'roll, disons.
La question du péché, vous vous l'êtes souvent posée ? On vous l'a souvent posée ?
Moi, je crois que la force du cinéma, c'est d'être amoral. C'est-à-dire que c'est le spectateur qui est suffisamment intelligent pour se faire sa propre morale. Donc, j'essaie jamais d'être moralisatrice, d'avoir un point de vue moral.
Plus que ça, de pousser le vice, un peu.
Mais regardez comment vous me parlez. Pousser le vice, un peu. Non, mais de jouer sur le trouble, sur l'ambiguïté. Parce qu'un être humain, c'est... Il y a plein de zones, c'est un millefeuille, il y a la zone qui parle comme ça, et puis derrière le cerveau, qu'est-ce qu'il y a, les paraveugles. C'est ça qui est intéressant. Et moi, je fais un type de film, je crois que ce soit dans la fantaisie ou dans des films plus dramatiques, qui touche toujours la transgression.
Finalement, elle vous va bien, cette maxime de Saint-Augustin. Aime et fais ce que tu veux. Saint-Augustin, qui est, comme vous vous en doutez, mon saint préféré pour des raisons de narcissisme et d'égocentrisme fatal. Comment est-ce que vous l'entendez, vous, cette maxime ? Aime et fais ce que tu veux.
Je trouve qu'elle a une vraie beauté, une vraie force. Elle est simple. Tout le monde peut la comprendre et tout le monde peut l'appliquer. Et on lutte souvent parce qu'on a peur de faire ce qu'on... C'est compliqué de faire ce qu'on veut.
Elle a pu vous guider, vous, cette maxime ? Vous la connaissez depuis toujours ?
Moi, j'ai toujours eu un... C'est ce qui m'a aidé dans la vie, puisque je me suis retrouvée en France toute seule. Voilà, je fais un petit conte comme ça, tout d'un coup.
Et c'est l'objet de l'émission.
Cosette. non, mais ça a été, mon guide, ça a été de ne pas avoir peur de l'échec, de ne pas avoir peur de transgresser... ce qu'on pense qu'il faut faire, d'avoir... Il faut du culot dans la vie.
Et ça, c'est la danse qui vous l'a appris ?
Bon, c'est un caractère. Mais la danse donne une force incroyable parce qu'on cache l'effort. La danse, c'est de l'effort constant, puisque c'est le cerveau qui est un tyran et qui dit à la jambe « lève-toi ». Et en même temps, il faut le cacher. Il ne faut, faut pas que ça se voit. Et le cinéma, il ne faut pas que ça se voit. Il faut que les choses aient l'air magiques. Il ne faut pas qu'on voit l'effort que c'est de faire une scène, de rendre vivant quelque chose qui est mort sur un bout de papier. Parce qu'un scénario, ça n'a pas de vie.
Qu'est-ce que vous dansiez, vous, à l'époque ?
Moi, j'ai dansé du contemporain, mais au départ, je viens de la danse classique. La barre, le tutu. À 16 ans, j'étais dans Casse-Noisette, par exemple.
Et qu'est-ce que vous ressentiez quand vous dansiez ?
Ah, je ressentais que j'appartenais pas au monde réel.
Une forme d'abandon ?
Une forme de... Surtout de ne pas être dans la littéralité du monde prosaïque.
Alors c'est passionnant, on regarde votre cinéma évidemment sur le corps, parce que j'ai l'impression que vous aimez filmer les corps. Et depuis toujours, Anne Fontaine, comment est-ce qu'on filme un corps qui s'abandonne, un corps qui désire ? Puisqu'il s'agit aussi de cela dans Blanche comme neige.
Ben justement, dans Blanche comme neige, j'ai vu plusieurs scènes d'érotisme sensuel. Et comment on regarde ce moment-là ? Qu'est-ce qu'on montre ? Qu'est-ce qu'on cache ? Qu'est-ce que c'est que l'érotisme ? c'est aussi ce qu'on devine, c'est ce qu'on imagine, c'est pas de montrer forcément. Et c'est très intéressant de se poser la question sur chaque scène, puisque c'est une façon différente d'aimer, c'est une façon différente de vivre avec son corps. Et bon, j'avais la chance d'avoir une actrice, Lou Delage, qui a une beauté et aussi une sensibilité, parce que c'est de la sensibilité, c'est pas de montrer pour montrer.
Filmer les autres, passer derrière la caméra, c'est venu de quel désir pour vous ?
J'ai été actrice à mon insu, on m'a
choisie,
pour ça,
ouais.
Et j'ai pas aimé ça du tout, d'être actrice sous le regard des autres. Donc de là, en fait, j'ai commencé à écrire, et c'est comme ça que j'ai fait mon premier film qui s'appelait « Les histoires d'amour finissent mal en général ».
Pour ne plus être regardée ?
Pour retirer cette machine qui essaye de vous rentrer dans le cerveau.
Mais parce qu'Anne Fontaine, la question du regard est centrale dans votre cinéma. Souvent, vos personnages se sont épiés ou regardent à la dérobée. Je pense tout de suite à Nathalie, à Perfect Mothers aussi. Dans quelle mesure le cinéaste est-il un voyeur pour vous ?
Un voyeur qui ne voit pas finalement forcément ce qu'il cache.
Il y a beaucoup de figures d'observateurs.
Oui, quand on voit Gemma Bovary, par exemple, le personnage de Fabrice Luchini qui observe sa voisine... Écoutez, j'ai fait une psychanalyse que je suis en train d'accomplir ici. Et je ne vous dirai pas une phrase tautologique parce que c'est plusieurs bouts de choses.
Mais quand est-ce que vous avez compris, Anne Fontaine, que vous aimiez ça, observer les autres ?
Depuis toute petite. Toute petite, alors n'importe où j'allais, quand je regarde quelqu'un, j'aime imaginer comment il est dans sa vie affective, comment il couche.
Là, tout de suite, c'est très gênant, parce que vous êtes en train de me regarder, Anne.
Non, mais j'essaie d'imaginer, en fait, je trouve que c'est formidable de voir un visage, de rien savoir, et d'imaginer une vie, un caractère.
Une histoire.
Une histoire, c'est ça qui est bouleversant chez les êtres qu'on rencontre et dont on ne sait rien.
On va continuer à parler d'histoire ensemble, de regards, d'images, de contes aussi, juste après. Hélène Merrill, tiens, qui reprenait en 1963 la chanson de Blanche-Neige de Walt Disney, « Someday, my prince will come ». Vous êtes sur France Inter avec Anne Fontaine. Vous écoutez Boomerang, vous n'avez même plus besoin de Prince Charmant.
Someday, my prince will come. Someday I'll find my love. And how thrilling that moment will be when the prince of my dreams come to me. He'll whisper, I love you, and steal a kiss or two. Though he's far away, I'll find my love someday, someday when my dreams or two. Though he's far away, I'll find my love someday, someday, when my prince will come.
Boomerang sur France Inter.
Oh, on est moins du côté de Blanche-Neige que du côté de la fée marraine ou de la mère supérieure qui aurait rendu sa cornette et abandonné son couvent ce matin, avec sa crinière chatoyante, son air fier et doux, son regard mystérieux, un petit peu comme si elle était la seule à voir clair dans les plus impénétrables des secrets, comme par exemple ma sexualité. Non, je déconne. Toute classe ce matin, la cinéaste Anne Fontaine, invitée de Boomerang pour son nouveau film Blanche-Neige, Blanche comme neige, plutôt, en salle la semaine prochaine. Un film qui débute d'une manière assez singulière, comme un thriller, avec musique angoissante, enlèvement, course dans les bois, coup de feu, et qui va progressivement glisser vers la comédie. Dans quelle mesure est-ce que faire du cinéma, c'est toujours pour vous s'amuser avec les genres ?
Ah oui, je trouve que faire de la comédie, c'est quelque chose de très, très, très stimulant à construire, parce que qu'est-ce que ça veut dire comédie ? C'est comédie humaine. Donc c'est de travailler sur le décalage, sur la surprise, sur emmener les gens. Au départ, c'est vrai qu'on se dit, oulala, c'est comme un néo-polar.
Ah, mais il y a un glissement, de l'angoissant.
Il y a un glissement très rapide. Et puis on se dit, tiens, elle rencontre un drôle de type, joué par Vincent McCain, qui joue du violoncelle. Déjà, la rencontre avec ce premier individu est assez questionnante. Et puis de là, il va y avoir cette rencontre avec ces hommes successifs. Le chiffre 7 a été un chiffre qui m'a orienté vers le conte, d'ailleurs.
C'est comme les sept nains.
Sept nains. Le chiffre 7, je sais pas, c'est un chiffre mythique. Et puis, petit à petit, de faire que ces hommes et elles arrivent à provoquer le rire, le désir, l'étrangeté. La singularité.
L'ambiguïté. Peut-être c'est un mot qui vous parle, l'ambiguïté, Anne Fontaine.
Ça vous parle aussi.
Mais à vous. C'est à vous que je pose la question.
Ben, l'ambiguïté, ça fait partie de la vie. C'est-à-dire, c'est idiot de penser que l'ambiguïté n'existe pas. Il n'y a aucune possibilité de ne pas être ambigu.
Oui, mais enfin, c'est un mot, pardonnez-moi, qui est tout le contraire d'une expression comme blanc comme neige, par exemple.
C'est tout l'aspect ludique du titre, parce que blanche comme neige, c'est la pureté,
c'est l'absence de mystère.
C'est la neutralité. Et pourtant, je pars de ça. Pour mettre du sel, du poivre, de la moutarde, pour qu'il y ait quelque chose qui réagisse chez le spectateur, qui soit peut-être un peu mal à l'aise, mais ensuite qu'il ait envie de participer, qu'il se dise, tiens, moi je serais bien là aussi, dans ce merveilleux décor du Vercors. C'est comme un pays imaginaire, en fait, le Vercors, là, le lieu où il y a une sensualité de la nature, il y a un prêtre, comme on rêve de rencontrer.
Enfin...
Il y a Benoît Paul Verde... Qui fait un libraire hallucinant SM, bon, qui est un peu ambigu, comme vous diriez, puisqu'il est SM, mais toujours sur la drôlerie. Parce qu'avec Pascal Bonizère, je trouve qu'il a le sens des hommes dépressifs qui vous plaisent. Parce qu'on aime toujours un homme un peu dépressif.
Oh.
Oui, mais oui, parce qu'au fond, il vous laisse voir des choses en lui. Il n'est pas sur le côté construction adulte qui essaye de croire à son emploi d'adulte. Ce qui est beau, c'est la fracture et la fragilité. C'est ça qui est beau chez un être humain.
Est-ce que vous diriez que le rire aussi est fragile, fracturé, mystérieux ?
Ah oui, le rire c'est intime, le rire c'est très profond. Moi je n'aime pas les comédies mécaniques, où il y a une mécanique absolument pour faire rire. Ce qui est beau c'est quand ça sort dans un moment où on ne s'attend pas.
C'est ça qui vous fait rire vous ? La surprise ? L'étrangeté ?
La singularité, le culot ?
Un écureuil voyeur, tiens, par exemple.
Ah, trois écureuils voyeurs, même. Il y a les animaux aussi, qui voient des choses tout à fait, sexy, gourmandes.
Comme vous y allez.
J'ai pas le droit de le dire, le mot.
Vous pouvez tout dire ici, dans Boomerang. Des comédies, Anne Fontaine, vous en avez réalisé un certain nombre. Pour autant, votre découverte du cinéma, elle se fait avec un film qui n'a pas grand-chose d'une comédie. C'est La Source, d'Ingmar Bergman. Un film qui a quelque chose à voir, pour le coup, avec le conte, avec la légende, justement. Quels souvenirs vous en gardez de ce film ? Quelles images ?
C'était vraiment une projection où j'étais pas du tout censée être. Au Portugal, à Lisbonne, avec ma mère qui voulait m'amener à voir un film de Louis de Funès et elle s'est trompée de cinéma.
La Bienheureuse.
Donc on est arrivé en plein milieu de La Source, en noir et blanc. film merveilleux de Bergman, mais pour une fille de 15 ans, ça a été un choc.
Un choc,
parce que je suis arrivée dans une scène de viol. J'ai été médusée par l'impact que le cinéma pouvait provoquer sur le regard. Comment j'ai été aimantée par cette scène, et ma mère a voulu partir, mais j'ai dit que je restais. Et je n'étais pas du tout cinéphile, ma famille ne voyait pas de films particuliers. Et c'est resté très marqué. Quand j'ai fait Les Innocentes, j'ai repensé à cette scène, puisque dans Les Innocentes, c'est des sœurs, comme vous savez peut-être, polonaises, qui étaient violées par l'armée russe à la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Il reste quelque chose de ce film dans tous les films que vous faites,
vous pensez,
Anne Fontaine?
Vous me posez la question, vous
toujours.
Pensez vous avez l'air de le penser. Ben, je pense qu'il y a quelque chose sur l'ambiguïté, comme vous diriez, sexuelle, sur la transgression, sur quelque chose de choc, que ce soit dans la légèreté ou que ce soit dans quelque chose de plus grave.
Qu'est-ce que je dois faire? Je ne tirerai pas 20 000 francs de tout ça. Oh non, je refuse absolument de me séparer d'une fourrure. Je les aime trop.
C'est la voix de Daniel Darieux dans Madame 2, réalisée par Max Ophuls en 1953. Pourquoi elle, que vous aviez fait tourner dans un film qui s'appelait Nouvelle Chance, Anne Fontaine?
Je trouve... Daniel Darieux, pour moi, c'est vraiment l'incarnation de la femme française, de la légèreté, de la finesse, de la modernité. C'est incroyable quand on entend sa voix, quand on voit ce film Madame 2 qui est merveilleux. Il y a une fragilité, une modernité. Le jeu n'a absolument pas bougé. Et quand j'ai eu la chance de la filmer tard, sur le tard, elle ne voulait pas chanter.
Elle l'a fait pourtant.
Elle l'a fait. Je lui ai dit, écoutez, chantez comme à voix basse. Chanter pour vous. Et en fait, on a fait un plan séquence. Elle a commencé de manière très très ténue comme ça, et puis petit à petit elle a repris confiance et elle m'a dit, vous m'avez refait chanter. Ah, c'est un moment que j'oublierai jamais. J'étais bouleversée par ce... Elle est vraiment bouleversante, quoi.
Qu'est-ce que vous cherchez chez un acteur ou une actrice?
Surtout qu'il joue pas bien. Qu'il soit existentiel. Et ça, c'est la plus difficile.
Parce enfin, il y a un monde entre être existentiel et jouer mal.
Non, mais jouer bien, il y a plein d'acteurs qui jouent bien. Mais d'être là, unique, avoir l'émotion unique, c'est un travail très, très, très fin.
Il se trouve que de film en film, on retrouve souvent les mêmes comédiens chez vous. Je pense à Isabelle Huppert, à Charles Berling, Vincent McCain, Benoît Poulvorde, Lou Delage, pour ne citer qu'eux. Quel plaisir est-ce qu'il y a à tourner avec les mêmes?
Alors c'est un approfondissement et un accord tacite. On sait d'où on parle. C'est-à-dire que quand vous allez vers l'acteur, elle connaît, par exemple Isabelle, elle sait d'où je parle, quelle connivence on a. Donc il y a un plaisir très fort. Et ce que j'aime, moi, c'est mélanger des acteurs que je connais et des acteurs nouveaux.
Il y a toujours un élément perturbateur chez vous.
Par exemple, Jonathan Cohen, je le connaissais pas. J'aime mélanger, mais c'est vrai que c'est un plaisir assez fort. Benoît Poulvorde, ça fait 4 films que je fais avec lui. Vincent McCain, 3. Et c'est des gens que je sens dans ma famille psychique, qui sont un peu barrés et qui sont un peu comme des frères, en fait. Je sens comme une famille, quoi, de frères ou de sœurs.
Oui, mais le familier est toujours rompu chez vous. Et ce qui m'intéresse, c'est que dans ce dernier film, Blanche comme neige, l'élément perturbateur, c'est la beauté. La beauté incarnée. Pourquoi est-ce que la beauté trouble, à votre avis? Vous êtes troublé, vous, par la beauté?
Ah oui. J'aime la beauté, j'ai toujours aimé la beauté, mais qu'est-ce que ça veut dire, la beauté?
Ah, c'est une bonne question, ça.
C'est quand même aussi quelque chose qu'on ressent de manière personnelle. Bien sûr, un visage comme celui de Daniel Darieux, jeune, était beau, mais c'est la façon dont on vit à l'intérieur de cette beauté. Parce que ce qui est le plus fort, c'est le vibrant, c'est l'émotion. Il peut y avoir un visage très beau qui ne provoque aucune émotion. Donc, c'est le défaut dans la beauté qui fait. C'est d'avoir un défaut. Les grands acteurs, ils ont toujours un défaut physique. Ils ne sont pas uniquement beaux. Il y a un truc, un petit truc de traviole qui vient illuminer la beauté.
Alors c'est sur nos défauts, Anne Fontaine, qu'on va se dire au revoir ce matin. Merci infiniment d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Blanche comme neige, avec Lou Delage, Isabelle Huppert, Vincent Macken, Charles Berling, Benoît Poulvorde, Jonathan Cohen, mais aussi Damien Bonnard, sort la semaine prochaine, tout de suite Les Médias. Sonia De Villers, juste après ça. Faire quelque chose, Jean-Louis Murat sur France Inter, et tout de suite c'est l'heure des médias avec Sonia De Villers, l'instant M. Vous m'entendez, Sonia ?
Mais oui, Augustin, je vous entends et je vous retrouve demain.